Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 2, scène 10. Il rentra à Moscou le 30 août. Il avait à peine franchi la barrière qu'il rencontra un aide de camp du comte Rostopchine.
« Nous vous cherchons partout, »
lui dit ce dernier.
« Le comte veut vous voir pour une affaire importante et vous prie de passer chez lui. »
Pierre, sans entrer dans son hôtel, prit un isvotchik et se rendit chez le gouverneur général qui lui-même venait seulement d'arriver de la campagne. Le salon d'attente était plein de monde. Vassil Tchikov et Platov l'avaient déjà vu et lui avaient déclaré qu'il était impossible de défendre Moscou et que la ville serait livrée à l'ennemi. Bien que l'on cachât cette nouvelle aux habitants, les fonctionnaires civils et les chefs des différentes administrations vinrent demander au comte ce qu'ils devaient faire, afin de mettre à couvert leurs responsabilités. Au moment où Pierre entra dans le salon, un courrier de l'armée sortait du cabinet de Rostopchine. Le courrier répondit par un geste désespéré aux questions qui l'assaillirent de toutes parts et passa outre sans s'arrêter. Pierre portait ses yeux fatigués sur les différents groupes de fonctionnaires civils et militaires, jeunes et vieux, qui attendaient leur tour. Tous étaient inquiets et agités. Il s'approcha de deux de ses connaissances qui causaient ensemble. Après quelques paroles échangées, la conversation interrompue se renoua.
« On ne peut répondre de rien dans la situation présente, »
disait l'un.
« Et pourtant, voilà ce qu'il vient d'écrire. »
répondait l'autre en montrant une feuille imprimée.
« C'est bien différent, cela c'est pour le peuple. »«
Qu'est-ce donc ?»
demanda Pierre.
« Voilà, c'est sa nouvelle affiche. »
Pierre la prit pour la lire.
« Son Altesse, dans l'intention d'opérer la plus prompte jonction avec les troupes qui marchent à sa rencontre, a traversé Mojaïsk et s'est établi dans une forte position où l'ennemi ne l'attaquera pas de sitôt. On lui a envoyé d'ici 48 canons et des munitions, et son Altesse affirme qu'elle défendra Moscou jusqu'à la dernière goutte de son sang et qu'elle est prête même à se battre dans les rues. Ne faites pas attention, mes bons amis, à la fermeture des tribunaux. Il fallait les mettre à l'abri. Mais n'importe, le scélérat trouvera à qui parler. Quand ce moment arrivera, je demanderai des jeunes braves de la ville et de la campagne. Je pousserai alors un grand cri d'appel, mais en attendant, je me tais. La hache sera une bonne chose, l'épieu ne sera pas mal, mais le mieux sera la fourche. Le français n'est pas plus lourd qu'une gerbe de seigle. Demain, après-midi, l'image d'Iverskaya ira visiter les blessés de l'hôpital Catherine. Là, nous les aspergerons d'eau bénite, ils en guériront plus tôt. Moi-même, je me porte bien, j'avais un œil malade. Maintenant, j'y vois des deux yeux. Les militaires m'ont assuré,
dit Pierre,
qu'on ne pouvait pas se battre en ville et que la position... Nous en causions justement,
fit observer l'un des deux fonctionnaires.
Que veut donc dire cette phrase à propos de son œil ? Le comte a eu un orgelé,
répondit un aide de camp.
Et il s'est tourmenté quand je lui ai dit qu'on venait demander de ses nouvelles. Mais à propos,
ajouta l'aide de camp en souriant,
on nous a raconté que vous aviez des chagrins domestiques et que la comtesse, votre femme...
Je n'en sais rien,
répondit Pierre avec indifférence.
Qu'avez-vous entendu dire ?
Oh, vous savez, on invente tant de choses, mais je ne répète que ce que j'ai entendu. On assure qu'elle...
Qu'assure-t-on ?
On assure que votre femme va à l'étranger.
C'est possible,
répondit Pierre en regardant d'un air distrait autour de lui.
Mais qui est-ce donc que je vois là-bas ?
Ajouta-t-il en indiquant un vieillard de haute taille, dont les sourcils et la longue barbe blanche contrastait avec la coloration de sa figure.
« Oh, celui-ci, c'est un traiteur nommé Veretchagin. Vous connaissez peut-être l'histoire de la proclamation. »«
Tiens, c'est lui, »
dit Pierre en examinant la physionomie ferme et calme du marchand, qui n'avait rien de celle d'un traître.
« Ce n'est pas lui qui a écrit la proclamation, c'est son fils. Il est en prison et je crois qu'il va lui en cuire. C'est une histoire fort embrouillée, il y a 2 mois à peu près que cette proclamation a paru. Le comte fit faire une enquête. C'est Gabriel Ivanovitch, ici présent, qui en a été chargé. Cette proclamation avait passé de main en main. « De qui la tenez-vous » demandait-il à l'un. « D'un tel, répondait-on. » Il courait alors chez la personne indiquée, et de fil en aiguille, il remonta jusqu'à Veretchagin, un jeune marchand naïf, auquel nous demandâmes de qui il la tenait. Nous le savions très bien, car il ne pouvait l'avoir reçu que du directeur des postes. Et il était facile de voir qu'il s'entendait. Il répond « De personne, c'est moi qui l'ai écrite. » On le menace, on le supplie, il ne varie pas dans son dire. Le comte le fait appeler. « De qui tiens-tu cette proclamation ?»« C'est moi qui l'ai composée. » « Alors, vous comprenez la colère du comte. »
ajouta l'aide de camp.
Mais aussi, vous conviendrez qu'il y avait de quoi être irrité devant ce mensonge et cette obstination.
« Ah, je comprends, »
dit Pierre.
Le comte voulait qu'on lui dénonçât Koutcharev.
« Pas du tout, pas du tout !»
répliqua l'aide de camp effrayé.
« Koutcharev avait d'autres péchés sur la conscience, pour lesquels il a été renvoyé. » Mais pour en revenir à l'affaire, le comte était indigné. Comment aurais-tu pu la composer? Tu l'as traduite, car voilà le journal de Hambourg. Et qui plus est, tu l'as mal traduite, car tu ne sais pas le français, imbécile. Non, répondit-il, je n'ai lu aucun journal, c'est moi qui l'ai composé. Si c'est ainsi, tu es un traître, je te ferai juger et l'on te pendra. C'en est resté là. Le comte a fait appeler le vieux, et le père répond comme le fils. Le jugement a été prononcé, on l'a condamné, je crois, aux travaux forcés, et le vieux vient aujourd'hui demander sa grâce. C'est un vilain garnement, un enfant gâté, un joli cœur, un séducteur. Il aura suivi des cours quelque part, et il se croit supérieur à tout le monde. Son père tient un restaurant près du pont de Pierre. On y voit une grande image qui représente Dieu le Père, tenant d'une main le sceptre et de l'autre le globe. Eh bien, figurez-vous qu'il l'a emporté de là chez lui et qu'un misérable peintre...